Donc nous reviendrons, il y aura des questions, j'espère, après l'exposé suivant, qui est donc un exposé de Sophie Picard, qui a soutenu récemment, au mois de décembre, une thèse sur la thématique de fêter les classiques au XXe siècle, construire l'image d'un Goethe et d'un Beethoven et d'un Hugo classique à travers les célébrations, et qui... aujourd'hui, reprend cette thématique un peu différemment, avec un titre qu'elle a changé d'ailleurs, « Comment devient-on classique, stratégie d'établissement de l'écrivain dans Torquato Tasso ?»
Merci beaucoup pour votre introduction et merci aux organisateurs du colloque de me donner l'occasion, effectivement, de, après m'être beaucoup préoccupée de réception de la réception de Goethe, de m'intéresser à Goethe lui-même. On a souvent dit et écrit que la monumentalisation de Goethe en classique national allemand au XIXe et pour bonne partie encore au XXe siècle correspondait à une dénaturation, un dévoiement de la pensée et de l'œuvre de l'auteur. N'a-t-il pas lui-même, dans un texte célèbre, enjoint ses lecteurs de modérer l'usage des expressions « auteur classique » œuvre classique, texte que Denis Blondeau citait à l'instant. Et n'a-t-il pas, dans ce même texte, déclaré qu'il ne souhaitait en aucun cas que se produisent en Allemagne les bouleversements qui permettraient de faire émerger des œuvres classiques ? Ces jugements catégoriques ont été cités et recités par les intellectuels allemands qui, dans les décennies d'après-guerre, entendaient donner au monde l'image d'une culture allemande dénationalisée. En mettant en avant ce type de citation, il mettait en évidence que le concept de Weimar classique n'était rien d'autre qu'une légende, un malentendu particulièrement coriace de la réception. Les choses ne sont évidemment pas aussi simples. Comme l'ont montré dernièrement René Sternke et Daniel Fulda, le désir de classique, c'est-à-dire le désir, l'attente de voir émerger de grands auteurs et de grandes œuvres, est bien présent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Allemagne. Il s'exprime aussi bien dans les prises de position d'écrivains et de penseurs que sur le marché florissant du livre, où l'on trouve de plus en plus de collections qui prétendent réunir les meilleurs auteurs allemands passés et présents. C'est dans ce contexte discursif que s'inscrit l'article intitulé « Literarischer Sansculottismus » que je citais, et qui, loin de récuser l'étiquette de « classique », traduit d'abord et surtout l'opposition de son auteur à un modèle de classicité alors dominant, celui qui est incarné par le siècle de Louis XIV, institué de manière systématique au rang d'âge d'or, à la fois modèle et sommet des lettres et des arts français. Le problème de ce modèle, aux yeux de Goethe, c'est qu'il repose sur une centralisation excessive des pouvoirs politiques et symboliques. Pour le dire de manière très simplifiée, dans la France de Louis XIV, c'est l'État qui institue les normes valables pour toutes les formes de création, et qui, dans le même temps, fait en sorte d'homogénéiser les goûts. À ce modèle de classicité à la française, Goethe oppose un modèle ouvert où l'excellence de la création littéraire serait garantie par l'émulation à l'intérieur d'un espace public de plus en plus cultivé et exigeant. À la verticalité normative du classicisme Louis XIVien, il oppose donc l'horizontalité d'un système décentralisé. Il en esquisse le fonctionnement dans Literarischer Sansculottismus, appelant les meilleurs écrivains à s'investir dans cet échange. Wollten unsere vorzüglichsten Schriftsteller uns nach ihrem Gefallen nur diejenigen Momente mitteilen, die zu ihrer Bildung am meisten beigetragen haben, und dasjenige, was ihr am stärksten entgegengestanden, bekannt machen, so würde der Nutzen, den sie gestiftet, noch ausgebreiteter werden. Dans l'esprit de Goethe, l'excellence ne peut être édictée d'en haut. Elle se produit au contraire lorsqu'a lieu une interaction entre écrivains et public, les écrivains ayant la tâche d'éduquer et donc d'élever le public, qui à son tour exige alors des écrivains des œuvres à la hauteur de ces nouvelles attentes. Petite remarque au passage, on trouve à mon avis une trace de cette conception de l'émulation dans le domaine littéraire dès la scène liminaire de Clavigo, lorsque le protagoniste s'assigne la fonction d'instigateur du bon goût parmi le peuple. Mais j'en reviens une dernière fois au texte intitulé « Literarischer Sansculottismus » et à sa conclusion, bien plus optimiste que les critiques ne le laissent en général entendre. Goethe y annonce non pas un âge d'or, mais diagnostique une véritable aurore pour la littérature allemande. répondant au passage à Frédéric de Prusse, qui avait publié une quinzaine d'années auparavant, en français, un pamphlet fort peu aimable sur l'état de la littérature allemande. In der letzten Hälfte dieses Jahrhunderts ist eine Art von unsichtbarer Schule entstanden und der junge Mann, der jetzt hineintritt, kommt in einen viel größeren und lichteren Kreis als der frühere Schriftsteller, der ihn erst selbst beim Dämmerschein durchirren musste, um ihn nach und nach gleichsam nur zufällig erweitern zu helfen. Viel zu spät kommt der Halbkritiker, der uns mit seinem Lämpchen vorleuchten will. Der Tag ist angebrochen und wir werden die Läden nicht wieder zumachen. On le voit. Dire que Goethe récuse l'étiquette classique et avec elle l'idée de classicité, c'est aller un peu vite en besogne. Non seulement il participe activement aux discussions sur l'émergence de classiques nationaux allemands, dans Literarischer Sansculottismus, c'est à Christoph Martin Wieland qu'il accorde cette étiquette, mais il réfléchit aussi intensément aux stratégies permettant à un écrivain de mériter cette distinction. Car l'attribut classique est bien une distinction. Il s'agit d'un jugement de valeur, d'une reconnaissance. L'auteur classique est celui auquel on reconnaît de manière plus ou moins durable une fonction, que celle-ci soit définie de manière esthétique, le classique est alors le sommet, la norme ou le modèle pour les arts, ou alors de manière politique, par exemple lorsque le classique a la fonction d'incarner ou de représenter sa nation. Dans sa vie et dans son œuvre, Goethe a lui-même cherché à obtenir cette reconnaissance. Maximilian Nutz parle d'un travail d'auto-monumentalisation, die Arbeit am eigenen Denkmal, perceptible à travers ses stratégies de publication, sa tendance à l'automythification, notamment dans Dichtung und Wahrheit, mais aussi sa volonté affichée de créer de nouvelles traditions. Ce que je voudrais montrer dans cette communication, c'est que Goethe ne se contente pas, dans sa vie et dans ses écrits, de mettre en œuvre des stratégies visant à s'établir lui-même en tant que classique, mais qu'il produit également une réflexion sur les différentes manières pour un écrivain de se voir accorder cette distinction. Quelques années avant la publication de l'essai Literarischer Sansculottismus, Torquato Tasso en fournit à mon avis un exemple. Si la pièce pose dans une perspective contemporaine le problème du rapport de l'écrivain artiste à la société, la question de la reconnaissance dans la durée, y est à mon avis tout aussi centrale. On le voit dès le lever du rideau. La première chose que le spectateur voit ou que le lecteur lit, ce sont ces Hermès dans le goût antique qui le mettent d'emblée en présence d'exemples éminents de classicisation réussie. Virgile à droite, l'Arioste à gauche. Si j'ai choisi de vous montrer d'abord cet extrait de l'adaptation de la pièce par Michael Sommer dans la série YouTube désormais culte Weltliteratur to go, c'est parce qu'elle met en évidence l'indifférenciation dans le choix de ses figures. Le choix de Virgile et de l'Arioste apparaît, à mon avis, peu voire pas motivé. L'auteur aurait pu tout aussi bien placer sur le devant de la scène d'autres personnages, à l'instar d'Homère, d'Ovide ou encore, pourquoi pas, de Dante. C'est particulièrement vrai pour Virgile. S'il se trouve là, dans cette position centrale, ce n'est pas pour un aspect particulier de sa vie ou de son œuvre, ce qu'a d'ailleurs montré Volker Riedel, mais bien parce qu'il représente le prototype du classique. Il est le modèle absolu du classique, un peu comme il le sera aussi dans la célèbre conférence intitulée « What is a classic ?» de Thomas Stern Eliot, que Thomas Stern Eliot prononcera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans laquelle il attribue au seul Virgile le statut de classique absolu, au-delà de tous les autres qu'il désigne comme des « normal classica ». Dans Torquato Tasso, Goethe, pas plus qu'Eliot, ne cherche à justifier ce statut exceptionnel. Virgile est un classique parce qu'il est un classique. Point. Les paroles qui accompagnent le couronnement de Virgile par la princesse au début de la pièce traduisent d'ailleurs cette tendance à la tautologie induite par le culte des classiques. Die Zweige, die ich in Gedanken flocht, sie haben gleich ein würdig Haupt gefunden. Ich setze sie Virgilen dankbar auf. Le choix de l'Arioste apparaît au premier abord plus motivé. Il correspond dans un premier temps à une réalité historique, puisque le poète a lui aussi séjourné à Ferrare et à Belrigardo. Surtout, au moment de lui dédier sa couronne de myrte, Leonore San Vitale justifie par son geste, la valeur actuelle qu'auraient les badinages, scherz, de l'Arioste. À la fin du premier acte, l'éloge vibrant de l'Arioste par Antonio donne encore consistance à la distinction accordée au poète et montre que son œuvre remplit toujours une fonction, fût-ce celle, très immédiate, de dévaloriser celle du Tasse. Dans la scène suivante, ce dernier reconnaît à son tour une fonction à l'Arioste, celle de modèle auquel se révélait. Il parle de ein großes Muster. Pourtant, ce modèle-là aussi semble interchangeable, comme le suggère la première mise en scène de la pièce le 16 février 1807 à Weimar, sous la houlette du directeur Goethe. Le buste de l'Arioste est alors remplacé par celui de Wieland, ce qui fait dire à Dieter Borchmeier que l'éloge fait par Antonio pourrait tout aussi bien se lire comme un éloge caché de l'auteur de l'Obéron, que Goethe considérait par ailleurs comme le seul digne d'être appelé écrivain allemand. Ce qui se joue, selon moi, à l'ouverture du rideau, c'est donc moins un hommage à Virgile et à l'Arioste qu'une mise en scène d'une pratique classique, une mise en scène de la classicité. D'emblée, c'est la question de la reconnaissance qui est posée. S'inscrire dans la durée, donc de la reconnaissance dans la durée qui est posée. S'inscrire dans la durée, c'est d'ailleurs ce à quoi prétend aussi le personnage de Tasso, qui affirme devant Antonio préférer la durée à la véhémence, auch ich verstehe wohl, so jung ich bin, der Heftigkeit die Dauer vorzuziehen. Une petite parenthèse encore, je disais que les figures de Virgile et de l'Arioste paraissaient interchangeables. La pratique théâtrale tend à confirmer cette hypothèse. Dans cette illustration du début du XIXe siècle de Gustav Heinrich Necker, l'auteur se conforme encore aux indications de Goethe, on trouve bien là Virgile et l'Arioste, qui encadrent la scène du couronnement. Mais dès 1823, les comédiens du théâtre de Weimar choisissent de placer un buste de Goethe entre ceux de ses prédécesseurs et profitent de la représentation pour rendre hommage à celui qui est dorénavant considéré comme l'écrivain allemand par excellence. Les mises en scène actuelles reprennent cette pratique, même si elle n'a plus tout à fait le même sens. À la place de Virgile et de l'Arioste, on trouve maintenant Goethe et Schiller, voire Beethoven, qui de nos jours ont remplacé dans l'image collective les auteurs antiques dans cette fonction de représenter des classiques absolus, des classiques par excellence. Il s'agit là, à mon sens, d'une interprétation tout à fait pertinente de la pièce, puisque la question de l'être ou de devenir classique, je le disais, apparaît comme névralgique, elle est au cœur des discussions entre les personnages. Si on relit la pièce à la lumière de cette problématique, on peut constater que plusieurs conceptions du classique et de la classicité, qui engagent à chaque fois différentes instances de classicisation, sont envisagées. Chacune d'entre elles est attribuée de manière plus ou moins explicite à un personnage. C'est ce qui permet de mettre en évidence leur caractère toujours relatif. Dans Torquato Tasso, Goethe présente, à mon avis, différentes perspectives sur l'idée de classique, invitant le spectateur à les comparer et à les évaluer. Je commence par la conception essentialiste. C'est celle que défend en particulier la princesse Éléonore. Donc, essentialiste, c'est moi qui le dis et je suis preneuse d'autres termes, mais je vais essayer de justifier ce choix. Donc, pour Éléonore, il ne fait pas de doute que les œuvres classiques ont une valeur en elles-mêmes. Cette valeur, il n'est pas donné au public, aussi éclairé soit-il, d'en juger. Tout se joue, au contraire, dans un dialogue entre Vorwelt et Nachwelt, dont la Mitwelt est tout simplement exclue. À son frère, elle dit « Lass ihn, mein Bruder, denn es ist die Zeit von einem guten Werke, nicht das Maß. Und wenn die Nachwelt mitgenießen soll, so muss des Künstlers Mitwelt sich vergessen. » Au contemporain, la princesse préfère donc les termes de Vorwelt et de Nachwelt qui reviennent à plusieurs reprises dans sa bouche. Leur sens à ces termes demeure assez vague. La seule certitude, c'est qu'ils constituent une sorte d'horizon idéal opposé précisément au temps présent, die Zeit ici évoque à mon avis les temps présents. Ils évoquent ces deux termes, l'idée d'une temporalité propre aux œuvres d'art, dont l'essence est de durer en dehors des contingences humaines et matérielles. entre Vorwelt et Nachwelt, il se crée une chaîne d'auteurs qui dialogueraient et se reconnaîtraient entre eux, tandis que les mortels demeureraient les simples spectateurs de ce passage de relais. C'est d'ailleurs bien en spectatrice admirative mais impuissante qu'Éléonore fait son autoportrait dans la pièce, dans la première scène. Wohin sich das Gespräch der Edlen lenkt, ich folge gern, denn mir wird leicht zu folgen. Si je parle ici de conception essentialiste, c'est que la valeur de l'œuvre d'art n'est jamais remise en question. Elle existe en tant que telle et s'impose dès lors par elle-même au commun des mortels que nous sommes. Autant dire que ni Tasso, ni aucun autre écrivain n'y peuvent quelque chose. Sauf à s'inscrire dans une telle lignée, à se servir des illustres aïeuls comme de curseurs permettant de se positionner dans un champ littéraire contemporain, mais également de se positionner aux yeux de la postérité. Lorsqu'Alphonse décide de couronner Tasso au premier acte, c'est d'ailleurs bien le terme d'aïeul, Ahnherrn, qu'il utilise en faisant référence à Virgile, indiquant entre les lignes qu'il reconnaît peut-être justement ce positionnement dans une lignée à Tasso. En définitive, avec Torquato Tasso, Goethe aussi procède à ce geste d'inscription dans une lignée, celle formée par Virgile, l'Arioste, Tasso, et au bout de laquelle il se place. L'anecdote de la représentation de 1823 que j'évoquais tout à l'heure montre d'ailleurs que les contemporains ont pris au sérieux cet autopositionnement dans l'histoire littéraire. Pourtant, cette idée d'une histoire littéraire séparée de la réalité historique est remise en question dans la pièce par la mise en scène de son opposition avec d'autres manières de concevoir la classicité. C'est éminemment le cas de la conception politique du classique défendue par Alphonse. Pour le prince, ce qui fait la valeur de l'artiste et de son œuvre, c'est leur utilité politique. C'est la raison pour laquelle il refuse d'abord de laisser partir Tasso dans la scène 1 de l'acte 5, craignant que les Médicis et les Gonzagues ne s'en emparent. Das hat Italien groß gemacht, dass jeder Nachbar mit dem anderen streitet, die Bessern zu besitzen, zu benutzen. Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst, der die Talente nicht um sich versammelt. Les termes utilisés, besitzen, benutzen, sont à mon sens révélateurs, en soulignant ainsi la dimension utilitariste de la conception politique du classique, à laquelle Tasso opposera plus loin la liberté de l'artiste, Goethe en montre d'emblée les limites. L'art comme vecteur de pouvoir. Au-delà de la référence au système incarné par les princes italiens de la Renaissance, mais aussi et surtout par le pape, on peut y voir une référence au classicisme français, institué par l'État centralisé pour stabiliser son pouvoir, et dont je disais tout à l'heure que Goethe le critiquait. Simultanément, Goethe semble moderniser cette conception de la classicité lorsqu'il fait envisager à Alphonse une utilité qui va au-delà du cadre féodal et qui prend une dimension nationale, voire internationale. Le personnage utilise à plusieurs reprises les termes anachroniques de Vaterland et de Welt, qui font directement écho aux conceptions du classique débattues à l'époque de Goethe. L'art et la littérature sont ici envisagés comme des ferments d'unité nationale, comme des moyens d'affirmer la puissance culturelle de la nation aux yeux du monde. Lorsqu'Alphonse déclare que la patrie et le monde s'ébahiront devant l'œuvre du Tasse, il y a l'idée éminemment moderne que l'Italie pourra se reconnaître dans son classique national et que le monde pourra reconnaître l'Italie dans son héros. Cette conception du classique induit une certaine adaptabilité de l'artiste, qui doit, pour pouvoir s'établir en tant qu'écrivain, se conformer à des attentes politiques, celle de son patron à la Renaissance, de son patron, de son mécène, ou celle de sa nation à l'époque de Goethe. L'œuvre, écrite par Tasso dans la pièce « La Jérusalem libérée », en fournit d'ailleurs un exemple. Elle répond à l'attente d'œuvres s'inscrivant dans le courant de la contre-réforme catholique à l'époque du pape Grégoire. De même, Goethe, avec sa pièce entièrement écrite en blank verse, répond au geste de Lessing et poursuit le mouvement de refondation du théâtre allemand initié par son collègue quelques années auparavant. La Mittwelt a donc bien son mot à dire ici. C'est également le cas dans la conception défendue par Leonore et San Vitale. À l'inverse de la princesse, qui se refuse le rôle de juge et qui laisse à la fameuse Nachwelt le soin de faire émerger les classiques, Léonore est celle qui accorde la plus grande importance à la sanction populaire. Et classique, celui qui peut se targuer de gloire, Ruhm est un terme qui revient à plusieurs reprises dans sa bouche, donc celui qui peut se targuer de gloire auprès du plus grand nombre, que ce soit dans l'immédiat, des allgemeinen Ruhms erfreue dich, conseille la Tasso en 1-3, ou dans l'avenir. Die Stätte, die ein guter Mensch betrat, ist eingeweiht. Nach 100 Jahren klingt sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder. Ce à quoi la princesse rétorque assez sèchement, dem Enkel, wenn er lebhaft fühlt wie du. À l'idée vague de Nachwelt, Léonore oppose ici des récepteurs en chair et en os qui ressentent justement l'œuvre d'art et qui pourront à leur tour la couvrir de gloire. Le critère de la classicité n'est donc plus ici l'utilité, mais la popularité. Et cette popularité n'est garantie que si l'œuvre est à même de procurer du plaisir. Pour Léonore, le classique est celui qui sait delectare et qui recueille, pour cette raison, les faveurs du plus grand nombre. Si elle reconnaît elle-même que la vox populi peut exprimer un jugement superficiel, elle n'en revendique pas moins, avec une sorte de fierté, la valeur de celui-ci. Face au sérieux de la princesse, elle assume, au sérieux et à la retenue de la princesse, elle assume ainsi un certain sentimentalisme, évoquant den Dichter, der uns die letzten lieblichen Gefühle mit holden Tönen in die Seele flößt. Dein hoher Geist, dit-elle à la princesse, umfasst ein weites Reich. Ich halte mich am liebsten auf der Insel der Poesie in Lorbeerhainen auf. La conception populaire du classique va de pair chez Léonore avec l'idée de génie. Là où Tasso évoque la conformité aux modèles anciens, Léonore développe face à Antonio la vision de l'œuvre littéralement extraterrestre. Ein Verdienst, das außerirdisch ist, das in den Lüften schwebt, in Tönen nur, in leichten Bildern unseren Geist umgaukelt. Aucune normativité ici, ni esthétique ni politique, dans cette conception du classique. Ce qui compte, c'est plutôt la singularité, le caractère hors norme de l'artiste et de son œuvre. Comment devient-on classique dès lors ? Selon Léonore, en bousculant les habitudes et les attentes du public. Là encore, il s'agit d'une stratégie mise en œuvre par Goethe dans Torquato Tasso, pièce qui prend par exemple à rebours les principes jusqu'alors omniprésents et valables pour tous de la poétique d'Aristote. Cette position, qui rappelle la génie esthétique de l'époque Sturm und Drang, est elle aussi mise à distance, ne serait-ce que parce que le personnage de Léonore et San Vitale, qui la représente, apparaît comme assez peu sympathique. Il est guère étonnant, dès lors, que ce soit précisément Tasso, qui ne cache pas son antipathie pour l'ami de la famille, qui défende une conception une nouvelle fois opposée du classique. Bien que sa position se rapproche parfois de celle de la princesse, avec laquelle il partage une égale admiration pour la Vorwelt, il accorde une grande importance, lui, au jugement de ses pairs. Denise Blondeau l'évoquait d'ailleurs précédemment. Lorsque Tasso accepte finalement de recevoir la couronne de laurier que veulent lui décerner Alphonse et les deux Léonore, c'est parce qu'il reconnaît en ses mécènes un public éclairé, expert en quelque sorte. Hier spricht Erfahrung, Wissenschaft, Geschmack. Ja, Welt und Nachwelt sehe ich vor mir stehen. Die Menge macht den Künstler irr und scheu. Nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt. Nur der allein soll richten und belohnen. Le jugement éclairé reprend et surpasse les modes de classicisation envisagés par les trois autres personnages. En réalité, il permet de rationaliser l'idée vague de Nachwelt, ne parvient finalement à la postérité que ce qui a été déclaré digne de lui parvenir par les experts précisément. Donc il rationalise l'idée de Nachwelt et les instances aléatoires que sont le pouvoir politique et la foule. À la fin de la pièce, Tasso radicalise encore cette position. Ce ne sont plus des amateurs éclairés qui sont en mesure de formuler un jugement sur son œuvre, mais bien un jury d'éminents spécialistes dont il énumère les membres. On pourrait bien sûr penser que Tasso présente là l'option favorisée par Goethe lui-même, qui attribuera, je le disais en introduction, dans Literarischer Sansculottismus, au public éclairé un rôle fondamental dans l'avènement des classiques. Et puis, il traduit aussi cette conception dans la pratique, puisque au moment de mettre un point final à Torquato Tasso, il s'adresse au spécialiste de la versification qui est Carl Philipp Moritz pour lui demander justement de juger son œuvre, voire de l'améliorer. Mais outre le fait que Tasso n'est évidemment pas le double de Goethe dans la pièce, sa conception apparaît là encore affaiblie par le fait qu'on ne sait pas s'il s'agit en fait d'un plan sérieux ou alors d'une simple stratégie pour s'échapper de Ferrare. J'en viens à ma conclusion. Comme j'ai essayé de le montrer, avec Torquato Tasso, en plus de poser le problème moderne, je dirais même romantique, du rapport de l'artiste à la société, Goethe produit une réflexion sur la question du classique. Le dialogisme propre à la pièce de théâtre lui permet de présenter différentes conceptions, différentes positions sur cette question. Donc différentes manières de concevoir ce qu'est ou ce que doit être un classique, et en même temps d'envisager différentes stratégies pour y parvenir. On a une espèce de mise en abîme qui est proposée dans cette pièce. Dans ma typologie, j'ai complètement laissé de côté le personnage d'Antonio, qui, à mon avis, est assez changeant, fluctuant à l'intérieur de la pièce. Et je n'ai pas réussi, si vous voulez, à associer une position claire sur cette question de la classicité à ce personnage. Pourtant, il prononce des paroles clés à un moment de la pièce, dans sa dispute avec Antonio et d'une manière provocative. Il évoque le rôle de la déesse Fortuna, donc du hasard, dans le processus de la reconnaissance. Wer angelangt am Ziel ist, wird gekrönt und oft entbehrt ein Würdiger eine Krone. Tasso réplique, was eine Gottheit diesem frei gewährt und jenem streng versagt, ein solches Gut erreicht nicht jeder, wie will und mag. Donc il refuse cette dimension aléatoire, cette dimension hasardeuse de la reconnaissance. Antonio enfonce le coup, schreibt es dem Glück vor anderen Göttern zu, so höre ich's gern, denn seine Wahl ist blind. Bien sûr, il s'agit là encore d'une position qui est opposée aux autres et qui, dès lors, peut être remise en question. Mais il est quand même dit quelque chose d'essentiel à ce moment-là de la pièce, il me semble. C'est que, bien sûr, il existe des conceptions de la classicité, il existe des stratégies que l'on peut mettre en œuvre pour y parvenir, et que Goethe, j'ai essayé de l'esquisser, de le montrer, met lui-même à son propre profit, mais au final, le classique, la classicité est un phénomène profondément injuste. Quoique face un écrivain pour se conformer aux attentes de son public, pour se positionner dans une lignée, pour obtenir les faveurs du public, rien ne garantit qu'il obtienne finalement la reconnaissance espérée et surtout que cette reconnaissance s'inscrive dans la durée. Je vous remercie de votre attention.
Merci pour cet exposé très, très différent du précédent, mais qui en même temps aborde des thématiques sous des angles différents, mais à peu près identique, la variabilité. La variabilité des classiques, avec d'un côté, donc, on a le modèle, la polarité Tasso-Léonore, ou Tasso-Antonio, avec donc une reprise du personnage d'Antonio à la fin, et une variabilité qui s'inscrit dans une chronologie, dans une longue évolution, également en relation avec la thématique de l'art, art et pouvoir.